Les copains, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.
Le temps des copains, l'émission des années 60 sur RVE.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Une réunion d'urgence convoquée aujourd'hui à l'Élysée au lendemain des scènes de violence à Paris qui ont marqué une nouvelle escalade dans le conflit des Gilets jaunes. Le chef de l'État doit retrouver le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et les services compétents pour tenter de trouver une réponse à un mouvement qui semble avoir échappé à tout contrôle. Édouard Philippe du coup a annulé son déplacement en Pologne pour le sommet sur le climat, la COP24. Hier soir, depuis le sommet du G20 à Buenos Aires, Emmanuel Macron a fermement expliqué qu'il n'accepterait jamais la violence et qu'elle n'avait rien à voir avec l'expression d'une colère légitime. Le G20, où le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la guerre va continuer dans l'est rebelle de l'Ukraine tant que les autorités ukrainiennes actuelles resteront au pouvoir, dit-il. De leur côté, Donald Trump et Xi Jinping ont déclaré une trêve dans leur conflit commercial qui menace l'économie mondiale. Washington suspend pour 3 mois sa hausse prévue des droits de douane contre la Chine, qui reste donc à 10% au lieu d'augmenter à 25%. Du football, et Montpellier a renversé la situation contre Monaco hier soir 2-1 et prend la deuxième place du classement. Monaco descend à la 19e place. Lyon recule de son côté à la 3e place malgré son match nul de partout à Lille. Et puis, c'était une des comédiennes les plus connues du théâtre de boulevard. Maria Pacôme est décédée. Elle avait 95 ans. Elle avait notamment marqué les esprits en mer indigne et plutôt énervée dans La Crise au cinéma. C'est la fin de ce flash. Très bonne journée à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, c'est le premier dimanche du mois, donc naturellement, c'est tout foot ce matin. Et quelle actu foot hein, ce dimanche, avec naturellement eh bien, un retour sur les Coupes d'Europe, le Ballon d'Or également, et puis les tirages au sort des groupes pour l'Euro 2020. On va en parler avec nos invités, on attend aussi notre ami Francis et Arnaud qui doivent arriver. Par contre, José, on le verra le mois prochain. Mais ce bonjour, on va saluer notre ami marseillais. Pierre, ça va Pierre? Pas trop la gueule de bois en ce moment?
Salut Philippe, non ça va. C'est juste une petite passade, ça. Dès cet après-midi, ça va passer.
Ah, c'est bon. Dur d'être supporter de l'OM.
Non, on a l'habitude.
Voilà, on va en reparler. Actu Foot 91 est là avec Benjamin. Salut Benjamin.
Salut Philippe.
Il y a un beau maillot 2 étoiles de l'équipe
voilà,
de France.
Voilà, on porte les couleurs de l'équipe de France, les 2 étoiles. Voilà. Tout va bien pour moi.
Ok, je sais qu'il est en pleine préparation de son site là. C'est le quotidien du foot. Stéphane Dezenclou, rédacteur en chef du foot, ça va Stéphane?
Oui, ça va, très bien.
Bien lancé le site?
Ouais, ça va. Ça fait maintenant 15 jours qu'il est en ligne et ça va.
Voilà, c'est ça. Bien. Avec tout plein de bonnes infos hein, dont on aura l'occasion de reparler. On a notre ami Vert, Bibi, ça va?
Bonjour Bibi. Philippe, ça va?
Ouais. Ouais. Les Verts vont bien?
Les Verts vont bien. Avec après notre petite victoire contre nos amis Canaries, ça va.
Belle victoire.
Ouais.
Belle victoire.
Très bien. Alors, on va donc naturellement commenter cette abondante Actu Foot. Stéphane, je voulais simplement revenir depuis donc le mois dernier sur la journée du variété qui est venue à Poigny-la-Forêt le 11 novembre, victoire 6-2 contre une entente de Poigny, donc en Bouillet, mais plus que la victoire du variété qu'on retrouvera à Ben dimanche prochain et le 3 mars prochain également au Perret en Yvelines, c'était des retrouvailles sympas avec Henri-Émile et Jacques Vendroux.
Ouais, tout à fait, voilà. Très très sympa, hein? Henri-Émile qui avait fait le voyage express en avion, le matin qui est reparti le soir juste pour... pour ce match, et puis Jacques Vendroux, qui est, on l'a constaté ensemble, c'est un malade mental, je dirais, de football, quoi. Ouais. Il est là avec dans ses bottes, sa parka et tout, au bord du terrain, à regarder
le match comme ça sous la pluie et tout, non, c'est, c'est toujours très sympa.
Oui, bon, il n'y a pas eu beaucoup de monde, il pleuvait, mais enfin quand même 1000 euros collectés pour les virades de l'espoir. Et puis il y a eu l'auto la veille qui avait aussi bien marché, donc voilà. On a, mais bon, c'était une réunion bien sympa. Et puis on l'a dit, le variété, on le reverra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois dans notre région. Allez, on commence avec l'actu foot. Alors, un petit mot quand même sur ce quotidien du foot, parce que tout ce dont on va parler aujourd'hui, on va l'avoir abondamment sur ce site internet dont j'ai eu la primeur.
Tout à fait, exactement. Parce qu'avant de, avant de le mettre en ligne, on l'a testé à certains privilégiés, entre guillemets. Ça fait maintenant une quinzaine de jours avec le groupe La Fond Presse qui avait beaucoup, beaucoup de magazines, dont mon magazine dont je m'occupe, le foot. On a lancé ce site internet, lequotidiendufoot.fr.
Voilà, c'est ça.
Donc, effectivement, j'invite tous les auditeurs, s'ils le souhaitent, à se rendre sur ce site pour avoir les informations de base, notamment sur tout ce dont on va parler, c'est-à-dire les éliminatoires, tirage au sort des éliminatoires de l'Euro.
Oui, c'est l'actu du foot avec un gars un petit peu décalé.
Un petit peu décalé, déjà parce qu'on n'a pas les moyens forcément de faire comme font des gros sites de foot. Je pense à L'Équipe ou à But, par exemple.
Et puis il faut se démarquer aussi un peu, peut-être.
Voilà, exactement. Voilà. Puis aussi se démarquer, donc on n'est pas trop dans l'actu à tout prix, résultat, mais en essayant de placer de pas rater l'actu, bien sûr, mais aussi d'avoir un peu notre regard, notre façon, quand on regarde, moi j'invite même les gens qui sont autour de cette table ou tous ceux qui veulent. D'ailleurs, on a un système aussi très important, juste pour terminer, appelle ça les contributeurs, c'est-à-dire que c'est possible, par exemple, si vous souhaitez, vous qui êtes autour de la table, écrire des articles sur
important.
Ce site,
c'est important.
Il suffit de s'inscrire, on va sur le site, on s'inscrit, et on peut écrire son article, c'est-à-dire tu veux écrire un article sur Saint-Etienne en expliquant des choses intéressantes, pas uniquement j'aime les
le coup de cœur du supporter, ou un coup de gueule.
Les choses que tu peux dire ici.
Comme on les faisait dans le temps dans un confrère But Saint-Etienne. Ouais.
Voilà, et ben là,
pouvait s'exprimer et c'était sympa.
Et ben là, c'est ce qu'on propose aussi. Mais ça peut être ça, comme ça peut être sur quelqu'un qui a envie de parler du club de Rambouillet, par exemple,
important.
Ou du club
c'est
de Chartres, des choses comme ça. Il peut venir écrire. Alors après, il faut que ce soit validé par ce qu'on appelle nous les rédacteurs qui travaillent pour. Mais ça va être mis aussi en ligne, donc c'est assez intéressant. Donc lequotidiendufoot.fr, je vous invite
ça fait un sans croix de travail là.
Comment ?
Ça fait un sans croix de travail.
En ce moment, en plus, il y a les transferts, on parle beaucoup. Là, on fait des suppléments papier chez La Presse, le magazine, et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est.
Oui, avec une équipe de rédacteurs qui sont des jeunes stagiaires. Hein,
ouais, tout à fait. Essentiellement, pas il y a aussi la rédaction de tous les gens qui font les magazines pour La Fond Presse, que La Fond Presse a le foot Paris, le foot Marseille, le foot Lyon, le magazine du foot, a 7-8 titres sur le foot. Donc il y a des articles, il y a une corrélation entre les deux, bien sûr, et plus effectivement un ensemble de stagiaires, plus tous les gens qui travaillent déjà pour La Fond Presse.
Alors avant de revenir sur les Coupes d'Europe, on va parler de l'équipe de France. Alors justement, on va beaucoup parler de ce qui va se passer aujourd'hui, les tirages au sort des groupes éliminatoires pour l'Euro 2020. C'est à partir de 12h à Dublin. L'équipe de France, elle est dans quel chapeau, Stéphane ?
Dans le chapeau 1. Le contrat aurait été étonnant.
Oui.
Elle est dans le chapeau 1, et puis bon, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais normalement, les éliminatoires de l'Euro pour une équipe comme la France et pour les grosses équipes européennes, c'est une formalité.
Oui.
Quoi.
C'est des poules de 5 quand même. Hein.
C'est des groupes de 5 et probablement pour la France un groupe de 6.
Oui, alors en plus, oui.
Il y a une chance sur 5 en fait que la France. Peut-être sur 5. Que la France tombe dans un groupe de 5, mais sinon, ça sera un groupe de 6.
Est-ce qu'il y a quelques grosses nations dont on a un classement un peu surprenant au niveau des chapeaux?
Il y a l'Allemagne qui est dans le chapeau 2.
Ça, c'est surprenant. Chapeau 2.
Il faut savoir que l'Allemagne est passée 11e au classement européen. Mm-hmm. Je ne sais pas combien c'est, peut-être 14e ou je ne sais pas combien, peut-être encore même un peu plus loin au niveau mondial, mais en tout cas européen 11e, en raison notamment des résultats compliqués de l'Allemagne dans la Ligue des Nations, en sachant qu'avant on avait des matchs amicaux à la place de ça. Donc si vous voulez une bonne Coupe du Monde, par exemple. Ce qui n'était pas le cas d'Allemagne, bien sûr, mais pour d'autres, on avait déjà un classement établi. Là, la Ligue des Nations a un peu accentué le trait dans le sens où les résultats sont pris en compte, sont plus importants, quoi. Donc l'Allemagne a dégringolé à la 11e place européenne. Et donc, comme les chapeaux, c'est 10, ils sont dans le deuxième chapeau, quoi.
Donc, messieurs, donc ça veut dire qu'on peut avoir un gros choc avec l'Allemagne contre une grosse nation. Oui, on peut avoir.
Faudra éviter l'Allemagne.
Ceci dit, c'est des poules où on finit dans les deux premières places.
Oui, mais après, c'est les barrages, j'imagine, si on est deuxième.
Non, deuxième, non, c'est qualifié.
Directement. T'es qualifié, c'est les deux premiers maintenant. C'est deux premiers.
Ça devrait être une formalité pour nous. Faut que on remette un peu notre jeu en place, parce qu'on l'a vu après pendant la Nation League, l'équipe de France était encore un peu sur le nuage de la Coupe du Monde. Ouais. Mais je pense que Didier Deschamps, il va remettre tout ça en place et que ça va être une formalité.
Alors justement, par rapport à notre dernière émission, il s'est passé deux matchs de l'équipe de France. L'équipe de France largement battue aux Pays-Bas, 2-0. Puis une équipe de France qui s'est quand même rachetée pour finir l'année 2018 de belle manière, en battant en match amical, tout à fait logiquement, l'Uruguay 1-0. Bon, il fallait qu'elle arrive, elle devait arriver cette défaite de l'équipe de France pour un peu
oui, puis remettre les choses. Je crois que Pierre a tout dit. La France surfait sur son nuage.
Oui.
En plus, elle est tombée
contre. Elle jouait une mi-temps.
Voilà, elle est tombée contre une équipe néerlandaise.
Là, il n'y a pas une photo.
Qui n'était pas mauvaise. Ouais. Donc voilà, bon.
Oui.
Ils avaient un match à ne pas perdre pour pas passer à la trappe. Bon, ils l'ont perdu. Voilà. Surtout que c'était serré. Hormis, enfin, entre ces deux équipes. Mais bon, elle est tombée contre une équipe plus forte qu'elle, et puis je crois qu'elle était en dessous de ses.
Non, mais ça fait du bien, par exemple. D'ailleurs, oui. Didier Deschamps, il a remis un peu les points de
vue. Il vaut mieux que ça arrive maintenant plutôt que ça arrive.
Bon, l'équipe de France n'ira pas en phase finale de Ligue des Nations, parce que les Pays-Bas, dans le dernier quart d'heure, ont su aller arracher le match nul contre l'Allemagne de 2. C'est pas très grave.
Comment déjà ?
C'est pas très grave.
Non, c'est pas grave. Par contre, pour revenir sur les deux confrontations, ça a permis de voir l'émergence de certains joueurs,
oui.
dont Tanguy Ndombele, du 91, et voir aussi voilà Steven Nzonzi.
C'est ça que tu fous de 91 qui parle.
Non, mais voilà, on a vu Steven Nzonzi était complètement passé à travers lors du match.
Pourtant, il a toujours été très bon, hein. Sinon,
bon, très bon. Ouais, après, voilà, on savait que on savait pas comment la France jouait sans Pogba. Pourtant souvent critiqué, et on voit quand même que Paul Pogba dans le système de Deschamps, il a une grosse place. Mais le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui peut le remplacer comme Ndombele, c'est assez bon pour la future les futurs matchs qui arrivent. Mmh. Et pour revenir sur juste deux petites minutes sur la rencontre Allemagne-Pays-Bas, on se demande comment l'Allemagne l'Allemagne ne gagne pas ce match.
Elle est convalescente, c'est tout. Hein, c'est pour ça. Hein.
L'Allemagne ne peut pas inquiéter aujourd'hui. C'est Enfin, quand on voit qu'ils sont capables en 10 minutes de prendre 2 buts.
Oui. Surtout que les Pays-Bas ont été assez nettement dominés dans ce match. Sauf le dernier quart d'heure où ils marquent 2 buts. Voilà.
C'est bizarre ce match.
Oui. Bah, l'Allemagne était convalescente. La grande équipe d'Allemagne n'aurait probablement pas été remontée. Hein.
Voilà, c'est pour ça qu'ils sont au chapeau 2. C'est juste normal.
Ouais, il est peut-être temps, justement, pour l'Allemagne qui ait aussi du changement chez eux. Ça fait combien de temps que Joachim Löw, il est à la tête de l'Allemagne? Et puis aussi les Pays-Bas, ça fait quand même quelques années qu'ils passent à la trappe. Ils n'ont pas fait la Coupe du Monde.
Ils n'ont pas fait l'Euro.
Ils n'ont pas fait la Coupe du Monde et l'Euro. Ouais. Là, il y a une nouvelle génération qui arrive avec des jeunes joueurs de l'Ajax. Ils montrent des nouvelles choses. Et moi, j'aime bien les Pays-Bas, donc ça me fait plaisir également. Mm-hmm. Mais c'est vrai que l'équipe de France, il faudrait aussi un peu de renouvellement. Voir Tanguy Ndombele, moi, enfin, c'est un Lyonnais. Je l'adore, ce joueur. Il va être durablement installé en équipe de France, j'en suis sûr.
Bah, c'est un box-to-box, quoi. C'est un mec, c'est ni un 6, ni un 10.
Mendy aussi a fait un bon
match.
C'est un mec qui remonte bien les ballons et on voit qu'il arrive à même faire des passes.
Ça va quand même être compliqué de rentrer dans l'équipe de France, parce que, effectivement, et moi je suis d'accord, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi, en même temps, mais bon, il est champion du monde, donc il sait tout et c'est normal. Deschamps dit que c'est le remplaçant idéal de Pogba, il le dit lui-même. Et puis pour le match aux Pays-Bas, il met pas Pogba est pas là, il met pas Ndombele, il met Ndombele.
Bon, ça personne n'a compris. Hein.
Mais ça c'est Deschamps, il l'a toujours fait. Hein. Si tu regardes le passé de Deschamps, il l'a toujours fait. Rappelez-vous le match en Suède, je crois que c'est en Suède quand on perd sur la boulette de Loris, la composition de l'équipe. Je crois que sur le banc, il y avait. Je pense que Mbappé devait être sur le banc. À l'époque, qui était en pleine bourre, Ousmane Dembélé était sur le banc. Le match d'après, il y a un match amical. Il met ces deux-là titulaires. Ils font un malheur.
Contre les Pays-Bas, je crois.
Ouais, ils font un malheur. C'est un super match. Et on dit pareil. On dit pourquoi il n'avait pas fait ça.
Il met 6 mois avant de lancer des joueurs.
Et 3 mois après, il est champion du monde. Donc
il est toujours sur l'aspect défensif.
C'est vrai que c'est étonnant. Maintenant. Ndombele est très très bon, comme peut-être d'autres, par exemple, effectivement, Fernand Mendy, je trouve qu'il est aussi très bon.
Oh, moi je pense que Fernand Mendy, il est.
Il y a
bon à s'apprendre, quoi.
Il y a quand même, n'oubliez pas qu'il y a Hernandez devant.
Tu veux
Hernandez,
Mendy. Hernandez,
Ndombele, tu veux enlever Paul Pogba?
Si tu joues avec deux récupérateurs, que je trouve, ce que je trouve surprenant, c'est que quand justement Paul Pogba n'est pas là, il met Steven Nzonzi alors qu'on a déjà N'Golo Kanté en fait pour faire de la récupération de balles.
Ouais, du récupérateur.
Donc en fait,
mais il fait jouer N'Golo Kanté sur ce match, il décide de faire jouer N'Golo Kanté plus haut à la même place qu'il joue à Chelsea.
D'ailleurs, que N'Golo Kanté qui fait son plus mauvais match en équipe de France.
C'est vrai que Ndombele peut éventuellement prendre la place de Blaise Matuidi.
Après, on va pas tomber sur l'équipe. Enfin, moi, je tombe pas. Ils ont le droit à faire.
Sur Deschamps, pareil. Moi, je dis la même chose. Hein. Il est assez écrit dans les trucs aussi. Il est champion du monde. Donc, c'est qu'il sait ce qu'il faut faire. On peut critiquer tout ce qu'on veut. Oui, je te dis pareil. On avait été étonné avant la Coupe du Monde de ce fameux match là contre la Suède là qui avait été perdu et tout. Et moi je rageais. Je disais, je comprends pas. Vous savez, maintenant le match d'après qui est un match amical, il met des regardez Rami, hein, Rami, qui est-ce qui rigolait, moi le premier,
qui
trouvait ça incroyable qu'on sélectionne encore un type comme Rami.
Enfin, Rami, il va parce que
le meilleur joueur du match.
Rami, il va au mondial parce que Koscielny est pas là. Hein. Sinon,
d'accord,
il va pas.
Mais bon,
il va pas.
Deschamps, quand il choisit ses remplaçants, il les choisit pas au hasard. Lui, il sait pourquoi il choisit ses remplaçants.
C'était pour être dans le groupe aussi.
Pourquoi il met sur la liste Rabiot, parce qu'il sait qu'il veut aucun mec qui conteste ses choix. Et Rami peut rester 3 mois.
C'est un modèle
remplaçant, et puis en plus dans le groupe il est parfait, alors de toute façon ça lui a donné raison, hein.
Ah oui.
Et déjà il avait déjà fait comme ça avant dans
c'est vrai que ce qui s'est passé aussi là contre les Pays-Bas, c'est vrai que l'équipe de France est passée carrément au travers.
Ah oui, non, mais
il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte.
Hein.
Donc après,
sinon ça fait 5-6-0.
Mais bon, après c'est vrai qu'il y avait des gars comme Hernandez qui n'étaient pas là. Bon,
Énorme joueur, anecdotique.
Après, Didier Deschamps, il a ses tactiques.
Il va se poser un problème à droite aussi. Moi, je trouve qu'à droite,
Pavard a un peu de mal après son mondial.
Au fond du trou, et aujourd'hui.
Contre l'Uruguay, ça allait un peu mieux, Pavard. Mais enfin, bon, voilà.
Ouais, enfin, après, le problème, c'est qu'il a du mal à se réadapter. Il joue centre à Stuttgart.
C'est un stopper, normalement.
Voilà.
On reste dans le c'est un stopper, c'est marrant, on disait ça déjà.
Oui, c'est vrai, à notre époque numéro 4. Le numéro 4.
Non, mais. Non, mais c'est bien, t'as raison, ça fait. C'est ça, en fait, c'est un stopper. Ouais. Je sais pas si Varane est un libéraux, mais bon. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est la méthode des champs. Voilà.
Mais ceci dit,
il y a plein de gens qui vont dire, il y a 5, même si en France on n'est pas très très. Fournis à ce poste-là, ils vont sortir 5 joueurs qui sont plus forts que lui, d'après eux. Tout le monde aura son avis, mais c'est lui qui joue. Puis, résultat, ça a été un des meilleurs, un très beau Français à la Coupe du Monde. Et, c'est vrai que c'est la méthode des champs. Moi, j'avoue que là-dessus, je reste très dubitatif. Je me dis, bon, le type, il est champion du monde, quoi. Je veux dire, il a fait son truc. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et je suis pas un fan de Deschamps, pas du tout un grand fan.
Pour l'équipe de France, il y a quand même des, je sais pas, maintenant qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, certains joueurs comme Pavard, parce qu'il y a peut-être un peu, je dirais pas des passes droits, mais
ça va être le problème.
Deschamps, il a toujours dit que il faut qu'il joue des matchs de Ligue des Champions avec Stuttgart, ils sont les relégables en Allemagne, quoi.
Puis dans le match contre les Pays-Bas, j'ai trouvé que ça manquait de percussion aussi en avant.
La chose bien, c'est qu'il y a personne.
Donc,
si on avait
percuté un peu plus aussi à l'avant, peut-être que voilà, parce que ça a été limite à un moment aussi.
Bon, alors Portugal, Pays-Bas, Angleterre et Suisse qui feront donc le carré final de cette Ligue des Nations. Alors Stéphane, justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il y a les tirages au sort de l'Euro, donc les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés, ce qui fera 20 équipes donc qui iront à l'Euro, et puis il y en a 4 autres qui sortiront justement de cette Ligue des Nations. Alors on va l'expliquer un peu parce que certains n'avaient pas compris, notamment Arnaud qui n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage. Donc
je pense qu'il a compris maintenant quand même depuis un c'est quand même c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que c'est super simple, quoi. Il y a 16 groupes, il y a 4 ligues.
Oui, écoutez bien,
il y a 4 ligues, dans chaque ligue il y a 4 groupes.
Voilà.
Jusque là, vous avez compris. Oui. Donc 16 groupes.
On monte, on descend.
En faisant abstraction des résultats des éliminatoires, les 16 premiers des groupes, chaque vainqueur de groupe, dispute une demi-finale, une finale par niveau de ligue. Et le gagnant gagne sa place pour l'Euro.
Non, bah, du gaz, voilà, ça va pour l'eau.
D'accord.
Oui, voilà, si par exemple les Pays-Bas, l'Angleterre, la Suisse et c'est quoi
la le Portugal.
Et le Portugal ne se qualifiait pas pour l'euro, par exemple, ils feraient les quatre, ils feraient entre eux demi-finale, finale, et le gagnant va à l'euro.
D'accord.
Dans le groupe D, par exemple. Oui. Je l'ai noté.
C'est ça, là, c'est des petites nations. Hein, donc, ça veut dire qu'il y aura un groupe
D. C'est l'Arménie.
Dans le groupe D, c'est la Géorgie, la Macédonie, le Kosovo et la Biélorussie.
Ouais, ouais.
Qui ont chacun gagné un de leurs groupes de la Ligue D. Ils vont se rencontrer demi-finale, finale. Et un de ces quatre pays, dans le cas très probable où ils ne soient pas qualifiés par la voie normale, ce qui est très probable quand même qu'ils n'arrivent pas à se qualifier, ces quatre-là. Le gagnant de demi-finale finale sera repêché. Ce qui veut dire, par exemple, pour la France, si les Pays-Bas se qualifient directement par la voie normale, la France, qui est deuxième du groupe va être l'équipe qui va être qualifiée pour aller jouer jouer les barrages.
Voilà.
Donc la France, éventuellement, si les Pays-Bas se qualifient et n'arrivent pas, ce qui serait quand même extraordinaire, à se qualifier par la voie normale, aura une chance de plus de se qualifier.
Très bien.
Pour chaque ligue, il va y avoir un qualifié comme ça. Et les matchs auront lieu en mars 2020, à la place des, au moment, à la trêve internationale qui est prévue pour les matchs
amicaux,
qui sont les derniers matchs amicaux avant le printemps et les listes et qu'on connaît tous. Ben, à ce moment-là, ces équipes-là, elles vont jouer leur place à l'Euro. C'est vrai que ce que disait notamment Arnaud, lui, ce qu'il pensait notamment, c'est que ce qui pourrait être problématique, moi, je le vois pas, c'est que les équipes vont donc devoir attendre certaines équipes le mois de mars, c'est-à-dire 3 mois avant
les demi-finales et les finales.
Moi, j'ai une question à te poser. Excuse-moi, t'as pas peur que ça soit faussé dans le sens où l'équipe qui sera déjà qualifiée, qui aura déjà son joker entre guillemets, fausse pas les résultats du groupe.
Non, parce que c'est à la fin les matchs, donc il faut.
Mais en mars là.
Non,
c'est 2020.
Donc
c'est demi-finale. C'est dans un an et demi.
On va
faire demi-finale avec des équipes qui étaient en forme là. On saura pas leur niveau.
Non.
Donc en fait, il y a pas trop de continuité dans la Ligue des Nations parce qu'en fait, je pensais que les.
Non, mais c'est pas là ce que je te dis. Ce qu'on appelle le final four de la Ligue des Nations.
Oui.
C'est-à-dire pour savoir qui va gagner.
Oui. Ça, c'est en juin 2019.
C'est en juin là. Mais les barrages. Comme les barrages, les éliminatoires de l'Euro 2020 vont se terminer en novembre
2019.
On aura donc les qualifiés et à ce moment-là, en mars 2020, trois mois avant la compétition du championnat d'Europe, auront lieu les barrages pour prendre les équipes. Et effectivement, t'as quand même raison, la Ligue des Nations est terminée maintenant.
D'accord.
Ce qui veut dire effectivement que par exemple le Kosovo là qui a cartonné là parce qu'il est terminé en tête de son groupe, on ne sait pas à quel niveau il sera dans un an et demi, par exemple, tu vois. Mais voilà.
Ok. Ouais.
Donc ça veut dire qu'il y aura quand même une petite nation en phase finale de l'Euro. Voilà. Ça conforte Michel Platini.
Ça
conforte Michel Platini. Ouais.
Hein. Enfin,
qui voulait ouvrir le football à tout le monde. Hein.
Là, j'ai noté par exemple la Serbie, la Finlande, l'Écosse.
Il y aura la moitié des
nations très moyennes.
Il y aura la moitié des équipes engagées.
4 sur 20.
Il y aura 24 équipes à l'Euro sur à peu près une cinquantaine d'équipes engagées.
Il y a 20 qualifiés.
La moitié, quoi.
Bon, en tout cas, la Ligue des Nations, ça donne quand même raison à Platini. C'est quand même des matchs plus intéressants que les matchs amicaux.
Oui,
on a vu quand même pas mal de matchs. On a vu Croatie-Espagne, on a vu
Angleterre-Espagne,
on a vu Allemagne-Pays-Bas. C'est quand même des matchs plus intéressants que des matchs amicaux.
On critique toujours avant de voir. Et puis voir le Kosovo et ou la Géorgie ou la Macédonie ou la Biélorussie, la Finlande à un championnat d'Europe dans une match de poule, ils auront peut-être du mal à sortir, mais ça va être tu vas avoir Macédonie Portugal, tu vas pouvoir aussi, je pense pas que ça fera 8-0 pour le Portugal hein, et
non,
tu
non.
vas avoir
on l'a vu hein, on l'a
moi,
vu
je pense que ça donne un
on voit après. Déjà l'Uruguay, le match amical contre l'Uruguay, déjà on voit l'Uruguay pourquoi ils viennent jouer quoi, il y avait pas d'enjeu, eux ils l'ont pas joué le match hein.
Ça peut donner la possibilité à des grands joueurs qui sont dans des petits pays aussi de se montrer dans ces compétitions hein.
Ouais, tout à fait.
Allez, une page en couleur, on y va.
Brifo Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnoult en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez ivré pontin.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez votre devis gratuit au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Me out like I was tankering, 'cause you're Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Oui, émission qui sera en podcast dans le courant de l'après-midi. Bon, on a quelques titulaires qui manquent aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va parler sur les Coupes d'Europe, parce que depuis un mois, on a beaucoup de choses qui ont évolué. On va commencer naturellement par la Ligue des Champions. On était un peu inquiet pour le PSG il y a un mois, et puis bah, finalement, tout s'est bien passé. Bon, très bon match nul à Naples, un partout, avec un Paris qui aurait même pu et dû logiquement s'imposer. Et puis victoire également, très bonne victoire devant Liverpool de 2-1. Paris donc est en ballotage plutôt favorable. Un simple nul suffit donc à l'Étoile Rouge de Belgrade dans 15 jours. Messieurs, Stéphane,
oui, allez-y, ouais, hein, effectivement, on en parlait là, ouais, en antenne. Moi, personnellement, je vois pas de, je vois pas trop.
On a eu peur à un moment, parce que le début, quand même, 3-2 battu à Liverpool, le nul contre Naples 2-2 au Parc, où c'est un peu miraculeux. Et puis, les deux derniers matchs ont été très bons.
Si, c'est vrai que si on regarde, je suis d'accord, après, il y a le contenu des matchs et tout. Mais en France, ouais, c'est devenu un sport national.
Oui, mais
pratiquement,
on est,
de taper
on est là pour
sur
analyser,
le PSG.
C'est normal.
Non, bien sûr.
Oui, oui, oui.
Mais de taper sur le PSG, c'est un sport quasiment national. Mais si on regarde bien, si on regarde les résultats bruts, pour moi, il y a une seule contre-performance du PSG. C'est le match nul contre Naples au Parc des Princes.
Ouais, ouais, ouais.
C'est la seule contre-performance. Ouais. Tu regardes, tu perds 3-2 contre le finaliste de la Ligue des Champions. Mmh. Tu fais 1-1 à Naples. Ah, en
avec
plus
un...
de ça, avec un,
oui,
un pénalty.
Paris doit gagner ce match. Ouais, hein. Paris doit gagner ce
un
match.
Un pénalty flagrant
contre Bernat. Ouais, ouais.
Oublié. Bon, et donc, franchement, on est c'est, ça fait un bruit. Il y avait un match important à faire. C'était au Parc des Princes, le dernier match.
Et Paris l'a bien fait. Hein, voilà. Même si c'est demi-temps complètement différent, mais Paris l'a bien fait.
Ouais, tout à fait. Bah, tu joues quand même contre le finaliste de la drill, le deuxième.
Ouais. Ouais, qui n'a pas été deuxième, très dangereux d'ailleurs. Hein. Excepté le pénalty de fin de première mi-temps, on ne peut pas dire que Liverpool est beaucoup pesé sur le match.
Et c'est parce qu'on a fait, je pense que les meilleurs joueurs du PSG ce jour-là ont été les défenseurs.
Oui, oui. Thiago Silva, énorme.
Thiago Silva qui pème, ça a été énormissime. Et donc. Et donc c'est tranquille, c'était un groupe très difficile, mais c'est marrant quand même de constater que il y a que deux groupes sur les huit groupes de Ligue des Champions, il y en a que deux où les équipes sont pas qualifiées encore.
Oui,
groupe de Lyon et le groupe de Paris.
Oui, mais c'est pas plus mal du coup de retrouver Paris dans un groupe difficile parce que toutes les années ils étaient qualifiés au bout de 4 journées.
Trop facilement.
Et ils arrivaient en 8e et du coup
trop facilement,
final, peut-être, en jouant 15 matchs de Ligue 1 à leur guise et puis 3-4 matchs de Ligue des Champions comme gagner 5-0 Celtic, ça apporte rien. Peut-être là ils vont vraiment être au niveau en 8e. Et du coup, ouais, c'est quand même un match fondateur, le match contre Liverpool, parce qu'enfin, ils sont retrouvés défensivement, et enfin, Thiago Silva a vraiment montré un match de patron, parce qu'on attendait quand même le match de patron de Ligue des Champions de Thiago Silva, et là, on peut dire que ça peut peut-être leur donner des bonnes bases quoi, pour les prochains matchs.
Alors, Naples à 9 points, le PSG 8, Liverpool 6 et l'Étoile Rouge 4.
Voilà, après, Paris est dans une position très favorable.
Pour
pas qu'ils y aillent.
Ce qui est sûr, c'est que Liverpool va tout faire pour battre Naples.
Ah bah oui, ils n'ont pas le choix, sinon ils sont en Europa League. Hein.
Ce qui veut dire que si Liverpool bat Naples, c'est un nul de
Paris. Un nul suffit à Paris, de toute façon, dans tous les cas, un nul suffit à Paris pour se qualifier. Après, il y a les goals à l'ouvrage particulier. Bon, Naples est supérieur à Paris, Paris est supérieur à Liverpool. Bon, voilà.
Et si l'Étoile Rouge venait à battre Paris ?
Oui, mais ils auraient 7 points. C'est pas suffisant. Ils auraient 7 points. Ils ont 4 points actuellement. Ils ont 4 points actuellement, de toute façon.
Mais Liverpool, ils ont 6 points.
Ouais. Oui. Si Naples bat Liverpool, Donc après.
L'Étoile Rouge, ils vont essayer quand même peut-être.
Ou un nul.
Hein, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui a encore joué.
S'il y avait la catastrophe qui ferait, à laquelle je ne crois absolument pas que Paris perde à Belgrade, en cas de match nul entre Naples et Liverpool, c'est Paris passe quand même.
Mm-hmm. Non, mais Paris a la chance d'être tellement en avance et supérieur en championnat qu'ils vont pouvoir mettre la grosse équipe contre Belgrade.
Oui, bien sûr.
Et qu'ils vont arriver là-bas. Et,
alors, cette équipe
ça va être une formalité pour moi.
Cette équipe de Belgrade, quand même, elle est quand même assez surprenante chez elle, hein, par rapport à ses prestations à l'extérieur.
Bah,
c'est une équipe complètement différente.
Ce qu'ils ont fait à Paris.
Qui a battu Liverpool, qui a fait nul contre Naples.
Oui, bien sûr. Bah après, c'est une équipe qui se transcende sur son terrain, parce que les supporters sont assez chauds là-bas, comme on disait.
C'est pour ça qu'il faut être méfiant. Hein.
Ouais, faut être méfiant. Ça peut être des matchs de piège, ça.
Oui, enfin.
Bah, regardons.
Normalement, Paris doit faire boulot.
Oui, je pense qu'il y aura le match nul.
Il faut savoir
aussi que Liverpool, par exemple, dans cette poule de Ligue des Champions, parce qu'on l'a effectivement, ils sont finalistes l'année dernière, mais je crois et C'est étrange parce qu'ils sont deuxième, c'est ça, en première ligne.
Oui.
Deuxième en première ligne, on casse du sucre sur le dos du championnat de France en disant qu'il est pourri, machin et tout ça. Ils sont deuxième en première ligne et je sais pas si Liverpool a fait un bon match de Ligue des Champions pour l'instant.
C'est pas le même problème. Ouais. En fait.
Et ils ont perdu leurs trois matchs à l'extérieur. Hein. Ils perdent à l'Étoile Rouge, ils perdent à Naples, ils perdent au Parc. Les trois matchs à l'extérieur, ils les perdent.
Ça aussi, donc, c'est une équipe différente, t'as complètement.
Donc c'est.
Mais la première ligne a baissé. Hein, excuse-moi, tu
te coupes. Ouais, là, c'est pas pour les mêmes raisons.
Non, mais depuis 3-4 ans, on voit plus de. Voilà, Liverpool a émergé en finale.
Mais moi, je suis
d'accord.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Je suis pas sûr, moi.
La première ligue, alors ils ont baissé. Quand tu vois Manchester United encore hier jouer.
Manchester aussi, c'est
Chelsea, ça joue très très mal. Ah si si, bah Chelsea, ça joue mal.
Moi, je suis pas d'accord. La première ligue, elle est tellement, elle est tellement relevée justement. Il y a tellement des bons joueurs et des bons entraîneurs.
Arsenal bat
que c'est tellement dur de gagner tous les week-ends, même contre Fulham, contre Southampton. Ouais,
Lyon, bah, City bat pas Lyon.
Ils dépensent trop d'énergie.
Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir des champions.
Bah, ils sont obligés d'avoir des effectifs de 35 joueurs pour pouvoir. Oui, City contre Lyon.
Après, il faut voir. Il n'y a plus d'équipe anglaise qui a gagné la Coupe d'Europe depuis longtemps.
City vont aller en Ligue des Champions. Vous dites comme si les Anglais n'étaient pas présents. L'année dernière, il y avait deux équipes en demi-finale quand même.
Ils sont toujours là, ils ont.
Je m'inquiète pas pour eux, moi.
Et puis ils ont gagné la Ligue Europa, c'est il y a deux ans.
Oui, il y avait Chelsea, qui avait gagné il y a quelques années, en 2013. En 2013, ils ont gagné. En 2013, Chelsea, la Ligue Europa.
En 2013, c'est
longtemps. La Ligue Europa,
ils ont gagné les Anglais.
En même temps, c'est
avec les moyens qu'ils ont, les retombées de télé.
Chelsea 2012, avec Drogba.
Le Chelsea de Drogba. Donc quand même, avec les moyens qu'ils ont, c'est...
Bon, alors Lyon, bah, c'est bien aussi. Hein. Lyon, ballotage favorable, on peut dire 2-2 contre Hoffenheim, 2-2 contre Manchester.
Moi, je dis ballotage défavorable.
Autant, ah bon, tu ne crois pas autant, tu ne vois pas faire un résultat nul à Donetsk.
Je les vois, je dirais du 40-60. 60 pour le Shakhtar. Donc c'est pour ça que je dirais défavorable. Je sais pas.
Attention, c'est une équipe qui est très déconcertante, Lyon, inconstante. Hein, donc capable d'aller faire un bon nul à l'extérieur et de concéder nul. On l'a dit, c'est l'équipe
des matchs du meilleur
de
comme du pire.
Oui, c'est vrai. Bon. Ce qui rend des matchs spectaculaires.
C'est quoi le classement là, ils peuvent faire un nul, ils peuvent.
Oui, ils sont qualifiés. Donc Manchester City à 2 points, Donetsk à 5 points et Hoffenheim 3 points. Donc Hoffenheim c'est fini, Donetsk 5 points, puis Lyon donc à 7 points.
Mais attention, Lyon ils font quand même souvent revenir en fin de match quoi.
Hoffenheim. Et puis il faut y aller.
Ils ont fait quoi contre Shakhtar à domicile? Attention.
2-2
à domicile. Et au final d'aller au Shakhtar.
Ils font les 3 matchs. Ils font les 3 matchs 2-2
au niveau qualitatif, ils sont meilleurs que Shakhtar. Mais est-ce que mentalement ils seront armés pour aller?
C'est une équipe inconstante. Elle est capable d'aller gagner à Manchester City. Moi je vois faire nul
Mais dans les je pense que dans les chiffres, quand je dis 40-60, je pense que c'est légitime par rapport au parcours des équipes. Mm-hmm. Mais c'est vrai que personnellement, je pense que
autant Paris, pour moi, ça va être une formalité. Autant Lyon, ça va être une formalité. Parce que Shakhtar, c'est pas la première équipe venue. Ils ont l'expérience de la Ligue des Champions.
C'est vrai,
ils ont des bons Brésiliens.
Mais Lyon, ils sont capables d'aller faire l'exploit.
Mais défensivement,
ils sont tellement inconstants.
Mais Lyon, ils ont aussi.
Ça, ils ont intérêt d'être dans une grande forme.
Ils sont un peu musiques.
Marcelo, là.
Cornet
est blessé. Là, il est déchiré. Là, sûrement. Là, il est déchiré. C'est peut-être une déchirure. Et justement, il parlait hier. C'est marrant.
Il avait été très bon l'autre jour là.
Il sort de sa boîte de temps en temps.
Manchester City, Pierre, s'en est bien retiré quand même, parce qu'après leur première défaite face à Lyon, 2-1 chez eux.
Il n'y avait pas de doute sur City. Hein. Mm-hmm. City, je regarde beaucoup le championnat anglais, il marche sur l'eau. Enfin, Guardiola, il est en train de faire de cette équipe une équipe redoutable.
Comme de toutes les équipes au championnat.
Comme de toutes les équipes qu'il a.
Voilà, c'est ça. Non, mais il y a des phases de jeu, de passes, de possession qui sont quand même. Très belle à regarder avec des joueurs
et sans leurs meilleurs joueurs.
Non, ils jouent
sans leurs meilleurs joueurs depuis le début de la saison.
Ils ont pas de Bruyne, mais bon, Agüero, enfin même David Silva, il doit avoir 33 ans, il est encore en pleine forme. Ils ont fait un recrutement assez pas beaucoup de joueurs ils ont pris. Ils ont pris Riyad Mahrez et Aymeric Laporte, ils l'ont pris
en janvier.
Mais c'est des joueurs qui sont en train de se révéler aussi.
En plus, il y avait trois absents de marque là quand même. Il y avait Mendy. Bon, Mendy, on en pense quoi, mais c'est quand même un top joueur à gauche. Et il y avait aussi
Bernardo Silva.
Bernardo Silva, voilà, qui était absent. Et le meilleur joueur de City, Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus qui était absent.
Le meilleur buteur aussi de.
Ouais, mais bon, De Bruyne, c'est en plus de ça.
De Bruyne, c'est la marque des champions, comme on sait. Après, tout va jouer sur le tirage au sort pour les huitièmes de finale, parce que on a pour finir premier ou deuxième.
Non, mais comme tu disais en off, ça veut plus dire grand chose. Des fois, il y a des.
C'est vrai qu'il y a des deuxièmes. Le Bayern,
qui termine deuxième de sa poule, qui tombe le PSG premier. Voilà. Bon, Monaco, on est tous malheureux. 4-0 battu par Bruges à domicile. 2-0 face à l'Atlético. Un point seulement pour les Monégasques, qui vont quand même essayer de sauver l'honneur. On en a parlé le mois dernier. La faute avoir vendu beaucoup trop de joueurs.
Ils ont ce qu'ils méritent, ça, c'est au-dessus qu'il faut s'en prendre.
Stéphane, t'es pas tout à fait d'accord pour
non,
ça.
Non, je suis pas d'accord avec cette analyse-là. Après, je dois avoir tort, parce que tout le monde a l'air.
C'est vrai quand même.
Ils ont vendu, mais le problème, c'est que.
Quand même, ça a marché pendant des années. Hein.
Oui, d'abord, là. Ça a marché. Ensuite, ça va continuer, parce que c'est pas ça qui va les gêner de continuer. Et ensuite, c'est vrai que il y a une corrélation de d'événements dans le sens que ils ont vendu et l'année où ils ont vendu peut-être plus ou beaucoup ils se retrouvent quand même avec un paquet de blessés, tous leurs meilleurs joueurs quasiment sont blessés.
Ah bah c'est le risque, hein, ça.
Voilà. Il y a quand même, on a beau dire ce qu'on veut, le match qui a eu lieu là quand ils ont perdu là, le dernier match, ils ont perdu à Madrid, c'est ça?
Oui, 2-0.
Par rapport à il y a 2 ans. Il y a, par rapport à il y a 2 ans, à l'époque, il y a 2 ans, au même moment, ils jouaient en 5e match de poule, ils jouaient Tottenham, ils ont battu Tottenham chez eux et quasiment assuré leur place pour être qualifiés pour les 8e. Si vous regardez les deux compos d'équipe,
il y a cinq joueurs qui
étaient titulaires contre, il y en a, s'il avait voulu mettre 5 sur 11 quand même, donc c'est quand même, en 2 ans, que la moitié, je dirais. Bon, après, c'est vrai que sur ces 5, t'en avais 2, Subasic, par exemple, et Glick, qui étaient tous les deux blessés, là, qui n'ont pas pu éteindre. Donc, il y en avait peut-être 3 d'alignés, simplement. Donc, ils ont effectivement, pas eu de chance avec les blessés. Et encore une fois, et après, maintenant, quand on dit c'est bien fait pour eux, c'est les moyens qui sont mis en place pour essayer de s'en sortir.
C'est difficile à comprendre, comme
ça. Non, mais en fait, c'est vrai. Non, mais
dans le sens, on arrive en finale de Ligue des Champions, on est en France. C'est difficile à comprendre, quand même.
En menant cette politique-là, forcément, tu peux passer par une année comme ça, surtout sur un cycle de 4 ans.
Bah oui.
Là, t'as des jeunes, comme on en parlait en off, il y a des jeunes, là, un petit jeune qui a battu le record de précocité, Sengo. Des jeunes qui vont être bons, mais ils arrivent dans un contexte où c'est compliqué pour eux
je pense que le problème, il est plus là. De pas avoir formé les jeunes suffisamment, des choses comme ça. Regarde, tu prends Lyon aujourd'hui, je prends pas l'exemple du PSG, parce que je pense que le PSG a peut-être a plein de jeunes, mais t'enlèves à Lyon 8 joueurs, quasiment les 8 meilleurs de l'équipe, tu dis les 8 meilleurs de l'effectif, ils vont être absents pendant 3 mois. Regarde l'équipe que c'est, tu dis,
c'est quand même bizarre.
Ils ont peut-être des jeunes derrière. Paris, tu dis, c'est pareil. Paris, mettons qu'ils vont jouer sans Neymar, sans Mbappé, sans Thiago Silva, sans eux, effectivement, avec les jeunes, on a vu des jeunes parce qu'ils les ont lancés, parce que t'as un entraîneur comme Tourelle par exemple, qui a fait beaucoup jouer les jeunes aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu dois faire 3 ou 4 matchs de suite en championnat avec Nsoki, Diaby, l'arrière droit là qui est blessé actuellement. Ou même.
Mais là, ils ont pas eu Monaco, il y a quand même Falcao. Il y a quand même. Ouais, même si Dibé, s'il est malade quand il joue, il est malade. Ouais. Justement, pourquoi il est malade? Peut-être qu'il voit que tout
exactement.
Le monde.
C'est pas forcément que le fait d'avoir vendu des joueurs.
Mais un très très bon joueur, pour moi, le seul qui est absent et qui fait un super bon début de saison, c'est Ronny Lopez.
C'est Ronny Lopez.
Lopez était très fort et c'est lui qui délivrait tous les ballons. Mais t'as quand même Falcao, il n'arrive plus à marcher. Enfin. C'est plus le Falcao.
Regarde hier.
Il n'y a plus d'envie à Monaco.
Quand on apprend que le vice-président Vadim Vassiliev prend un sacré pourcentage sur tous les transferts, je m'étonne qu'ils vendent beaucoup.
On comprend mieux peut-être.
Ouais, voilà. Après, les joueurs sont pas devenus mauvais du jour au lendemain. Tu vois ce que
non, mais il y a même un côté fataliste. Il a raison dans un
sens.
T'enlèves les 5, 6, 7 meilleurs joueurs de l'effectif, c'est plus compliqué. Surtout quand on vend plein de joueurs. Après, moi, je pense que Thierry Henry, pour revenir au match, il a été pragmatique.
Il a mis une équipe qui savait qu'il allait perdre.
À l'Atlético Madrid.
Ah oui, bah, comme Rudy Garcia, il a fait la même chose.
Pour essayer d'aller. Oui, on va en
venir. Alors, justement, avec l'Europa League, messieurs. Alors, Pierre, 2-1 à Rome. 4-0, donc.
C'est
contre
Rome qui fait la
différence. Contre Francfort. Marseille éliminé en Europa League. Marseille qui fait de la figuration.
Tu fais de la figuration. Non, pour le dernier match contre Francfort, oui.
Ah ouais.
Oui. Mais moi, le match contre la Lazio, on était vraiment pas bien parce qu'on était dans une mauvaise période en championnat. Et on relève la tête à la Lazio, on fait un bon match à la Lazio, mais on perd ce match malgré tout. Et c'est le tournant. Après, bah voilà, on est éliminé, puis on met la Ligue Europa de côté et on se concentre sur le championnat, c'est tout.
Après, il y a aussi des trucs.
Moi, j'en veux pas Rudy Garcia.
Faudra sauver donc l'honneur contre
Limassol. Là, c'est les joueurs.
Oui, certainement.
Quand on voit Luis Gustavo ce qu'il fait contre Francfort, puis bah il y a quand même un problème aussi de recrutement, faut le dire quoi.
Qui fait un recrutement à Marseille?
Zubizarreta. Non, c'est tous quoi. Ils sont en concertation.
Ouais, mais c'est quand même le Rudy Garcia qui moi j'adore. Si tu veux, j'adore ce jeu quoi. J'adore.
Il est sympa Garcia.
C'est un type très sympa. C'est, je pense, un des très très bons entraîneurs français. Il a pour moi un seul problème qui est énorme, c'est qu'il a un ego. Non, il a un ego surdimensionné. Il donne impression en tout cas de tout savoir, de vouloir tout maîtriser.
T'es obligé lui-même, à Marseille d'être comme ça.
De tout vouloir, exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'il rentre dans ce jeu-là de dire faut que j'affiche? Et ils font des énormes boulettes, quoi.
Mais le problème de Garcia, l'année dernière, il a tiré maximum. Enfin, il a fait, il pouvait pas faire mieux ce qu'il a fait l'année dernière avec des mecs comme Sarr. Aujourd'hui, il y en a même qui proposaient ça en équipe de France. Sarr, il redescend un petit peu. Saka, il est un peu moins bon. Gustavo, c'est. Et deux, trois joueurs comme ça qui sont plus au niveau. Et heureusement, aujourd'hui, que Thauvin, il marche sur l'eau parce qu'il nous sort.
Pas du tout.
Et en fait, le problème, c'est que les mecs, ils arrivent, les Américains, ils sont beaux, ils arrivent. Voilà, on va mettre tant.
Il n'y a pas de projet.
Aujourd'hui, Garcia peut-être qu'il se trompe.
Il n'y a pas de projet à Marseille.
Mais aujourd'hui, pour avoir un attaquant, le grand attaquant, entre guillemets, c'est 60 millions. Je suis désolé, aujourd'hui, en 60 millions, ils ne peuvent pas les mettre. Donc, on se retrouve avec des Mitroglou qui n'est même pas capable de marquer. Demain, il retourne dans un autre club, il marque but sur but, on est sûr. Germain retourne dans un club moyen des gars, il marque 15 buts. Mmh. Et là, en ce moment, alors là, quand t'as pas la confiance en plus à Marseille.
Non, mais après.
C'est ça le truc, c'est qu'en fait, Garcia, je suis d'accord, il exploite, mais franchement.
Non, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est vrai qu'il me déçoit quand je le vois parler, dire encore exprès, par exemple, à Francfort, ce qui est vrai aussi, c'est vrai, il a raison de le dire, hein. Les deux meilleurs joueurs sur le terrain, ça a été le Croate et Kalaitasar et Radojic. Il a dit c'est les deux meilleurs joueurs.
C'est de la com, ça.
De la com. Mais c'est parce que il veut rester dans son truc de dire je suis le meilleur, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé au recrutement. C'est des mecs là, mais ils seront peut-être bons dans deux ans, dans trois ans. J'en sais rien. Mais on parlait tout à l'heure de Germain. Tu dis que Germain, il va marquer des buts quand il va trouver. D'abord, il en marquera pas énormément. Et ensuite, il en marquera dans une équipe, je vais enfoncer des portes ouvertes, qui jouera au moins avec deux attaquants, il jouera jamais seul en pointe. Comme il joue à Monaco avec Falcao, comme il joue à Nice avec.
Ouais, mais bon, ça me fait rire. Ça, si t'es un grand joueur ou si t'es un joueur.
Mais c'est pas un grand joueur.
On sait que Germain, c'est un bon joueur.
Non, mais si t'es un joueur de foot professionnel, tu dois pouvoir aussi t'adapter.
Germain, il peut pas jouer en 4-3-3.
Germain, il n'est pas le problème de l'OM. Germain, il a été acheté, je crois que c'est 8 millions d'euros. Il a été acheté 8 millions d'euros pour un rôle, machin et tout. C'est un très bon. Je pense que c'est un très bon
joueur de Ligue 1.
Ah ouais, c'est un très bon choix à l'époque de Marseille de prendre ce joueur et tout ça, c'est pas du tout là-dessus
à l'époque, si tu gardes Gomis, tu peux associer Gomis et Germain, et aujourd'hui pour jouer dans le système qu'il y a, on n'a pas le joueur. Pourquoi il met aujourd'hui Thauvin en faux neuf des fois?
Tout ça c'est des problèmes d'effectifs de personnes, mais pour en revenir plus globalement, je suis pas du tout inquiet, en fait. Parce que quand je vois dans le championnat français, si on gagne ce soir, on revient troisième.
Mais c'est cet après-midi.
Si
on gagne.
Le championnat français, le premier qui gagne, il est deuxième, le premier qui perd, il est dernier.
Les gens aujourd'hui, ils parlent de crise, ils parlent de. Non, c'est faux.
Mais à Marseille, c'est toujours la crise.
On était déjà
dès qu'il y a deux matchs qui vont pas, c'est la crise.
Il a envoyé les jeunes, il a envoyé les
4-0. le 4-0 à Francfort, c'est 4,
c'est 4-0.
Le 4-0 à Francfort, pour moi, le seul problème qui démontre, c'est l'absence totale de banc et un effectif très faible de l'OM. Mm-hmm. C'est-à-dire, à partir du moment
on
disait tout à l'heure, ça veut dire que l'OM t'enlève, ils prennent comme Monaco 6 ou 7 blessés. Ils sont 16e ou 17e du championnat aujourd'hui. Quoi, c'est une question.
Ça dépend des blessés, quoi.
Donc, ouais. L'équivalent de Monaco, hein.
Oui, oui,
non, Monaco. Mais c'est ça que, moi, c'est ça que je trouve triste, quoi, tu vois. De voir l'équipe sombrer à ce point-là. Alors qu'il y a, mais bon, c'est vrai que t'as raison, c'est pas le problème. Le gros problème, il va être pour moi, c'est comme on disait, le match charnière, on en parlait tout à l'heure pour Saint-Etienne, qui a très bien négocié son match charnière hier contre Nantes. Le match charnière, il est cet après-midi contre Reims. Tu dis que ça va être une formalité.
Non, je
moi, je dis l'équipe de Reims, comment elle est organisée, les résultats qu'elle a, les buts qu'elle prend, comment Reims est organisé.
Et surtout après le 4-0.
Une équipe un petit peu en déficit de confiance, c'est pas sûr qu'elle.
Moi, je pense que ça va être une formalité contre Reims. Moi, je pense que le match charnière, ça sera plus à Saint-Étienne, là, en fin d'année, au mois de décembre, là, pour faire basculer du bon côté, prendre 3 points. Mais là, on oublie, parce que là, on tape sur l'OM, petit coup de cœur, mais là aujourd'hui on oublie que les deux autres équipes françaises là, Marseille, ils ont quand même fait une finale. Aujourd'hui on demande une régularité en Europa League. Là, Rennes, Bordeaux, mais
alors justement, ils existent, on va y venir. En fait. Justement,
dans des groupes encore plus faibles. Ouais. Si
justement,
tu vois
on va y venir. Bordeaux, il y a très peu de chances, c'est très infime. Bordeaux, donc qui a fait match nul contre Saint-Pétersbourg 1-1 et qui a gagné 2-0 contre Prague, mais ils ont très peu de chances de se qualifier.
C'est tout un tas
de circonstances. Par contre, Rennes s'est relancé, messieurs. Rennes peut se qualifier.
C'est faisable.
Il faut qu'ils battent Astana qui a un point.
Ce qui est faisable.
Ce qui est juste devant eux. Ils ont 8 points. Rennes en a 6. Et donc, ils ont été battus à Kiev 3-1. Mais le fait d'avoir gagné Jablonec 1-0, ça les rend.
Ils gagnent à Jablonec, mais c'est limité. C'est un peu un hold-up, je crois.
Voilà, donc. Rennes peut se relancer. Est-ce que Rennes va le faire? Ça, c'est autre chose. À domicile contre Astana, quand même.
On a l'impression que c'est une rengaine, quoi, les clubs français en Europe.
Est-ce que vous pensez pas que équipe ait été en finale? Ils se disent, bon, bah voilà, on a eu bien du mal pour aller se placer dans les trois premiers. Est-ce qu'involontairement, au début de saison, ils ont pas fait un choix dans leur tête? Alors, je sais pas.
Mais ils jouent pourtant les compétitions. Y a
des mecs comme ils savent, ils vont pas se réveiller et se dire, voilà, on va chercher le championnat, la première place.
C'est pas la même équipe. On en parlait justement. Personnellement, c'est bon. Ça fait 3 mois que c'est exactement ce que je pense.
Bah, moi, pour
vous. Pour la simple raison, la simple bonne raison que Rudy Garcia, même s'il a prolongé, s'il termine 4e du championnat, il saute cet été.
C'est 3e ou rien.
Et on m'a dit, effectivement, notamment toi et moi, je suis pas assez, tout le monde m'a dit, l'Olympique de Marseille, le club Marseille ne peut pas se permettre de faire ça. Ils feront jamais ça. Donc je veux bien,
ça.
Mais effectivement, ils l'ont peut-être pas dans les compos. En tout cas, même j'étais étonné de la compo qu'il avait, de l'équipe qu'il a mis en place pour aller jouer à Rome. Ouais, à Rome. J'étais étonné. Même là, je pensais pas qu'il ferait ça.
On verra ça au mois de janvier. Mais Marseille, c'est à août. Bordeaux, c'est pratiquement fait. Il reste que plus Rennes, donc on verra ça en janvier. Allez, la deuxième page de pub.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
DMP Doc des matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Sereine, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. C'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide.
Allez, on a eu beaucoup demain, de choses encore à vous dire. Qui va être Ballon d'Or aujourd'hui, demain? Qui va être Ballon d'Or? Un Français, Varane?
Ouais, pour moi, Varane, pour moi, ça devrait être Varane. C'est...
Hein
bon,
ouais.
Champion du monde toute
milite,
l'année.
Vraiment pour Raphaël Varane, parce que ouais, le Ballon d'Or est toujours à donner.
C'est demain le Ballon d'Or, hein,
voilà,
le tirage
c'est
au sort,
à 21h.
De l'Euro et
Et en gros,
demain,
bah,
le
malgré tout, ma tête me dit que ça sera pas lui, mais j'aimerais bien que ça soit lui, parce que pour voilà, il fait une grosse Coupe du Monde, Ligue des Champions, mmh. Ligue des Champions, il est parfait. Il
a en principe, en principe.
Et puis on se rappelle que les seuls défenseurs qui ont gagné le Ballon d'Or, c'est quand ils ont aligné
Cannavaro,
aligné ouais, Coupe du Monde. Et
moi je suis dans le jury du Ballon d'Or, je vote Varane sans problème, hein, à la première place. Hein.
Non, objectivement.
Toi, tu votes Ronaldo? Non, c'est pas
Non, je vote pas Ronaldo.
Ah bon, d'accord.
Non, non,
okay.
non,
d'accord,
non,
quand même.
Ah,
sur là.
Non, je vote Modric, moi.
Ouais, Stéphane, Modric, il paraîtrait que ce serait lui.
Ouais,
il serait déjà au courant. Notre ami de France
après,
Football l'aurait déjà appelé.
Ah ouais,
ouais, le directeur.
Ah
bah, c'est ce qui se dit un peu partout. Ouais. Hein.
Bah, moi, de toute façon, c'est aussi les infos. Bah, on en parlait hier au téléphone. Les infos que j'ai aujourd'hui, c'est effectivement que Modric a 95%, on va dire, les Ballons d'Or. Ce qui va être plus surprenant, à mon avis. À mon avis, le il risque d'avoir un mini séisme ou des polémiques.
Oui.
Elles vont pas naître forcément.
Grisou veut pas venir. Hein.
Comment?
Apparemment.
Je pense que donc il a donc peut-être les mêmes infos que moi. Qui dirait qu'il serait même pas sur le podium.
C'est peut-être ça le problème aussi avec Griezmann, c'est qu'il a un petit peu son image qui est.
Une Coupe du Monde, une Europa League quand
même. Oui, non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que son mini scénario de je pars à Barcelone, je pars pas, des trucs comme ça, ça peut être entaché.
Les résultats quand même.
Après, c'est des gens qui votent aussi.
Oui, ben, journaliste.
Modric, il a quand même gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid.
Ça, c'est vrai,
il a fait la finale de la.
de la. De
oui,
la
mais Varane y gagnait deux.
C'est un joueur exemplaire.
Varane y gagnait deux, mais c'est un défenseur.
Et le problème de Varane, c'est que c'est un défenseur. Donc, ouais. Et puis, c'est le problème de Varane, c'est que c'est un défenseur. Et le problème de Varane, c'est qu'il est, qu'il y a les Français, Griezmann, Mbappé qui sont
dans Varane, il n'est pas aussi charismatique que les
autres. Je l'aurais donné à Varane. Je pense que le petit problème, quoi, la polémique va naître, si c'est ce que je pense moi, du fait qu'on va peut-être avoir un Ronaldo deuxième.
Ça, ce serait moins
grave. Alors là, encore, je monte, c'est juste un scandale. Si Ronaldo ou Messi sont sur le podium, c'est un scandale.
Non, mais sinon,
Ronaldo, il n'a pas existé en Coupe du Monde, Ronaldo.
Il a mis un triplé contre l'Espagne.
Ouais, mais bon, le Portugal s'est arrêté trop tôt.
Voilà, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions et vainqueur de la Ligue des Champions.
Ça, par contre, ouais. Ça,
mais il marque combien de. Il marque beaucoup de buts pendant la phase de poule.
Ouais. Sur ses buts. Et
C'est fini, monsieur. Voilà. Eh ben, écoutez, merci. On a eu une riche Actu Foot. On la commentera donc dès le mois. Juste un petit mot. 20 secondes, Paris Saint-Germain vise donc l'invincibilité à l'issue des 19 journées de championnat.
À mon avis, on va le savoir cette semaine.
Ouais, ils veulent gagner tous leurs matchs.
Je pense que déjà, à commencer par ce soir, Bordeaux, on va avoir une nouvelle équipe du PSG avec beaucoup de gens sur la touche.
Très bien.
Et il y a plein de matchs. Il rejoue mercredi. Il va faire tourner beaucoup pour préparer Belgrade.
Très bien. Mais écoutez, on parlera de tout ça début janvier. Ça sera le 6 janvier donc 2019 qu'on se retrouvera pour le premier Tribune Foot de l'année. Merci, messieurs. Et puis, très bientôt.
Bonne journée.
Et puis, on va remercier Bastien qui va bientôt nous faire émission de jazz sur l'antenne d'Herbe à la rentrée. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. On sera là pour Tribune Sport la semaine prochaine. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. RVE, bonne matinée. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Une réunion d'urgence convoquée aujourd'hui à l'Élysée au lendemain des scènes de violence à Paris qui ont marqué une nouvelle escalade dans le conflit des Gilets jaunes. Le chef de l'État doit retrouver le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et les services compétents pour tenter de trouver une réponse à un mouvement qui semble avoir échappé à tout contrôle. Édouard Philippe du coup a annulé son déplacement en Pologne pour le sommet sur le climat, la COP24. Hier soir, depuis le sommet du G20 à Buenos Aires, Emmanuel Macron a fermement expliqué qu'il n'accepterait jamais la violence et qu'elle n'avait rien à voir avec l'expression d'une colère légitime.